Si la Bible devait remplir parfaitement sa mission, nos cœurs seraient transformés. Ils seraient tellement remplis de pensées, de sentiments, de vérité, d'amour, de joie et d'humilité que nos vies deviendraient une série ininterrompue d'actes de grâce et de beauté morale. Chaque instant de nos existences deviendrait un reflet miniature de la vie dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que nous devons développer la pratique de méditer la Bible, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que de la lire ou de l'étudier. Vous comprendrez bien vite la différence, même si, bien entendu, les trois pratiques, vous allez me dire que ça va faire du travail, les trois pratiques sont importantes. Non, la méditation a ceci de particulier, c'est qu'elle immerge, notre cœur dans la parole. Elle l'y plonge, littéralement. Ce cœur, qui nous l'avons vu, a besoin en permanence d'être purifié de ce qui le souille. L'objectif de la méditation biblique est donc d'avoir notre cœur lavé par la parole. Alors, comme promis la semaine passée, je vais tenter maintenant de vous donner quelques pistes intelligentes, j'espère, et faire quelques réflexions afin que nous puissions développer cette discipline spirituelle dans nos vies, parce que c'est forcément, vous l'aurez compris, une discipline spirituelle. La première chose qu'il faut sans doute recommander, ça peut paraître une évidence pour tout le monde, hein, mais je pense que dans la pratique, ça n'en est pas une parce que ce n'est pas toujours installé. Il faut demander à Dieu de vous rencontrer, de venir à votre rencontre dans l'Écriture lorsque vous lisez le texte biblique. Avant de lire, donc, il faut prendre un moment pour lui demander de vous parler et de lire le texte en vous attendant à ce qu'il le fasse. Parce que dans ce processus, votre foi dans le fait qu'il veut vous parler va commencer à s'allumer et à devenir agissante dans votre rapport au texte biblique. Autrement, on peut très bien avoir un rapport totalement intellectuel. Certains des plus grands théologiens bibliques aujourd'hui ne sont même pas chrétiens. C'est pour vous dire. Donc il y a moyen de connaître le texte vraiment très très bien en profondeur, en tout cas au niveau du contextuel, et de ne pas avoir le cœur transformé, tout simplement parce qu'on ne s'attend pas à ce que Dieu nous dise quoi que ce soit. Alors une petite phrase, moi, qui m'aide, un des versets que j'ai mémorisé il y a bien longtemps, c'est cette fameuse réponse du petit Samuel, qui sera un grand prophète. La première fois qu'il a entendu lui parler, mais c'est vrai que ce n'est pas à travers le texte, mais dans l'enceinte du temple où il se trouve, du tabernacle, il entend Dieu parler et il lui répond « Parle, Seigneur, ton serviteur, écoute ». Je pense que c'est la disposition de cœur que nous devrions tous avoir quand on prend du temps pour méditer la parole de Dieu. Comprendre que nous sommes serviteurs, nous sommes que ça, et c'est déjà pas mal, et que nous avons besoin d'écouter. Un serviteur, ça a besoin d'écouter son maître. Non ? Ben si. Oui, c'est des serviteurs. Alors je pense que nous avons tous déjà fait l'expérience de ne pas nous sentir écoutés. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, messieurs, demandez à votre femme. Pas à la mienne, bien entendu, n'est-ce pas, ma chérie ? Je crois véritablement que c'est malheureusement l'expérience que notre Père fait très souvent quand il tente de nous parler. Il est heureux que nous ayons sa parole, et puis dès que nous l'avons ouvert, on commence à lire, il se dit, oui, ben, il lit, mais il n'entend pas, il n'écoute pas. Je ne pense pas être un doux rêveur, je suis plutôt quelqu'un de pragmatique, mais je sais que Dieu veut vraiment nous parler au travers de sa parole. Quand nous ne percevons rien, parce que ça arrive quand même souvent, c'est parce que nous sommes trop fermés, ou que justement nous n'attendons pas grand-chose de ce moment que nous allons passer dans l'Écriture. Vous aurez compris, chemin faisant, qu'il faut bannir de votre tête tout le côté expéditif. Je suis pressé, je vais prendre 2 minutes, après je vais prendre le linge, vous pouvez le pendre, hein, bien sûr, à un moment ou l'autre de la journée, mais si vous si vous installez et que vous dites « Ah oui, non, il faudrait peut-être que je pense à faire ça après » et « Ah ben, pendant que j'y suis, je vais peut-être jeter un coup d'œil là. » Et « Ah oui, non, il faut vider la machine ou Isabelle ne va pas être contente. » Là, dans tout ça, croyez-moi, Dieu, il n'a aucune chance de faire entendre sa voix. Et puis, plus fondamentalement, je pense que beaucoup d'entre nous n'ont même pas l'esprit que l'objectif de ce moment d'intimité, c'est justement que de cette intimité émerge une parole, que quelque chose en sorte. Une relation, en fait. Et de bonnes relations, on peut avoir des non-dits dans une bonne relation. La plupart du temps, une bonne relation se développe à partir d'une bonne communication, c'est apprendre à s'écouter l'un l'autre. L'une des choses très enrichissantes en ce qui me concerne, lorsqu'on s'intéresse à l'histoire de l'Église, hein, qu'on lit les 2000 ans ou quasi d'histoire de l'Église, c'est qu'au cours des siècles, de nombreux chrétiens ont partagé leurs expériences de la parole de Dieu, comment Dieu s'était révélé dans leur vie, comment Dieu leur avait parlé parfois pour la première fois. Saint Augustin, que vous connaissez tous, je pense, ne fût-ce que de nom, dans son livre bien connu mais profondément pénible, Les Confessions, c'est très gros et c'est très chiant en fait, mais bon, il y a quand même des passages intéressants, la preuve, raconte qu'un jour il était assis sous un figuier et qu'il a entendu une voix qui lui disait « Prends et lis ». Et la voix s'est répercutée une deuxième fois, « Prends et lis ». Alors c'était clair pour lui, il était quand même loin d'être idiot, que cette voix de Dieu, c'était la voix de Dieu qui l'invitait à ouvrir la parole de Dieu. Et c'est alors qu'il venait de lire un court passage, et j'insiste sur le court passage, de l'épître de Paul aux Romains, que quelque chose s'est passé, dit-il, et je laisse la parole à saint Augustin d'Hippone. Je n'avais pas de désir, c'est saint Augustin pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, je n'avais pas le désir d'en lire plus. Ce n'était pas nécessaire. C'était comme si mon cœur était rempli d'une lumière et que toutes les ombres du doute s'en étaient allées. Je n'avais pas le désir d'en lire plus. Retenez ça, hein, ça sera important pour la suite. Quand Dieu nous parle au travers de sa parole, c'est comme une déclaration d'amour qu'il nous fait. Et je ne connais aucune femme qui laisse son amoureux aller jusqu'au bout de sa demande en mariage. La plupart du temps, elle interrompt cette demande en se jetant au cou de son amoureux. Ou alors elle interrompt en s'en courant. Ça, c'est possible aussi. Ça, c'est déjà vu. Hein. Ben si. Alors pourquoi est-ce qu'elle ne laisse pas son amoureux aller jusqu'au bout de sa demande, de sa déclaration d'amour? Eh bien justement, parce qu'elle n'a pas le désir d'en entendre plus, ça n'est tout simplement pas nécessaire. Elle a entendu ce qui lui était nécessaire, ce dont elle avait besoin. Pour le dire autrement, donc quand vous lisez le texte, vous êtes, je sais pas, moi, vous avez décidé de lire un chapitre, voilà. Pour méditer un chapitre c'est beaucoup, mais j'y reviendrai. Un chapitre, admettons, si à un moment Dieu vous parle, Dieu vous touche, Dieu vous dit quelque chose, arrêtez-vous. Sortez de votre programmation, il faut absolument que je lise ma Bible en un an. Ouais, c'est... D'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu, tout comme pour saint Augustin, rencontre les gens de cette manière-là. Récemment, Jessica prenait le petit déjeuner dans une boulangerie de Braine-l'Alleud. Oui, ça lui arrive, comme ça, elle a du goût de luxe. Descend du train, enfin pas du train, mais du bus. Et... Elle va déjeuner. Et à la table d'à côté, une maman s'insurgeait de ce que des gens avaient distribué des Nouveaux Testaments à la sortie de l'école de sa fille. Elle était outrée. Comment peut-on tolérer que l'on distribue des Nouveaux Testaments, probablement les Gédéons, hein, je suppose, des Nouveaux Testaments à des jeunes étudiants à la sortie de l'école? Alors, indépendamment du fait qu'il y a, me semble-t-il, pire que de recevoir un Nouveau Testament, hein, franchement, hein, on peut recevoir de la coke... de la marijuana, etc. Cette histoire m'en a rappelé une autre. Il y a quelques années, une autre maman fut outrée de ce que quelqu'un avait eu l'audace de parler de Dieu à sa fille. Alors bien que cette maman se soit sentie très, très seule au sein de sa banlieue, elle n'avait jamais rien voulu savoir de Dieu. Il y a eu des tentatives hein, autour d'elle, mais elle n'avait jamais rien voulu savoir de la part de Dieu. Et pourtant, cette nuit-là, Hélène, c'est son nom, ne trouva pas le sommeil. Vers minuit, elle est descendue, je la cite, hein, elle est descendue dans le salon et elle a pris, parce que même si elle ne s'y intéressait pas, il y avait une vieille Bible sur l'étagère dans le salon, elle a pris la Bible et elle a commencé à la lire. Elle a commencé vers minuit et vers 3 heures du matin, elle en était arrivée à la moitié de l'évangile de Jean. Elle ne s'était pas arrêtée de lire. Et elle s'est rendue compte à ce moment-là qu'elle était tombée, entre guillemets, je la cite toujours, amoureuse du personnage de Jésus. Et c'est là qu'elle se mit à prier, ce qu'elle n'avait jamais fait de sa vie. « Je ne suis pas certaine de savoir ce que je suis en train de faire, mais je sais que tu es tout ce dont j'ai besoin. » Dieu lui avait parlé. Ce genre de choses, mes amis, arrive tous les jours à des gens qui ne connaissent pas encore Dieu, et, merci Seigneur, à des gens qui disent le connaître. Tous les jours, Dieu parle à des hommes et des femmes. Avant de lire, il faut reconnaître que votre Seigneur est présent. Rappelez qu'il y a quelques semaines, j'avais quand même fortement insisté sur le fait que le royaume de Dieu, il est déjà là. Déjà ne fût-ce qu'à travers notre présence à nous. Qu'il est déjà là. Et ce qui est nécessaire à notre vie dans le royaume, en grande partie, est déjà présent. Et s'il est présent, c'est parce que le Christ est présent. Donc le message fondamental de la Bible, ce n'est pas que les secours sont en chemin, mais bien qu'ils sont déjà arrivés, que le salut est déjà arrivé, que Jésus a déjà donné sa vie et déjà ressuscité. Et donc demandez-lui de laver votre cœur, de laver vos pensées, même si par expérience, je peux vous dire que de temps en temps, quand tu lui demandes ça, il le fait, et ça peut piquer un peu, quoi. Parce que notre problème, c'est bien pour ça qu'il faut se soumettre à cet exercice, nous ne savons quasi jamais dans quel état est notre cœur. Nous ne savons pas. Nous pensons savoir. Mais parfois, il est quand même peu encombré de choses dont nous ignorons la présence. Alors, soyons pratiques quand on lit la Bible. Pendant votre lecture, des choses, je l'ai dit, peuvent vous frapper, peuvent vous arrêter. Vous pouvez être ému en lisant un verset sur l'amour de Dieu pour vous. C'est pas grave d'être ému. Ne vous dites pas, je suis quand même trop sensible, moi, hein, trop fragile. Parce que là, il y a un truc qui va se passer, c'est que votre cœur va se fermer. Si quelque chose vous touche, en relisant ce que l'amour de Dieu pour vous, eh bien, soyez ému. Et là, vous allez voir, pour ceux qui ont des problèmes pour prier, vous allez voir, c'est pour ça que je dis souvent que la prière d'abord écoute, la parole de Dieu va être une sorte d'ascenseur pour vous amener dans la prière. Parce que quand vous êtes touché par Dieu dans votre lecture, par son amour, par exemple, vous reprenez conscience, comme tout à nouveau, qu'il vous aime de cet amour-là, eh bien, vous ne savez pas faire autrement que prier parce que l'Esprit-Saint va vous pousser à prier et à dire merci. Et vous qui avez des problèmes dans votre prière, en tout cas pour ce moment-là, ce jour-là, à cette heure-là, ces problèmes n'existeront plus. Et vous sortirez de là transformé, changé, avec un cœur lavé et purifié. Ou il va peut-être aussi vous éclairer sur, ça c'est moins drôle, mais c'est nécessaire aussi justement, l'une de vos pratiques, votre façon de penser. Osons le gros mot, hein, même s'il est tombé en obsolescence programmée, celui-là aussi. Un péché dans votre vie, dont vous ignorez peut-être tout, ou vous ne voulez rien savoir. Ou vous allez être, ça c'est pas toujours facile non plus, encouragé à prendre une décision, décider d'arrêter quelque chose, décider de mettre quelque chose en mouvement. Soyez tout simplement ouvert à la possibilité que Dieu vous parle réellement au travers de sa parole. Si vous ne le faites pas, c'est très simple, hein. Vous êtes en rapport avec un livre, avec de l'encre et du papier. Et pendant des siècles, on a parlé de la réforme protestante tout à l'heure, avec Calvin, pendant des siècles, une des tares du protestantisme qui s'est développée, hein, inconsciemment souvent, c'est que beaucoup de protestants, en particulier évangéliques aujourd'hui, sont ce que j'appelle des bibliolâtres. Ils adorent la Bible. Ils n'adorent pas le Dieu qui se révèle dans l'Écriture. Et ça, c'est terrible. D'abord pour eux, bien entendu. Je me rappelle, il y a quelques mois de cela, un matin, je n'étais pas de très bonne humeur. Et oui, ça m'arrive. C'est très, très rare. Hein. Je ne vais pas vous dire autre chose. Hein. Mais comme je suis pasteur et un bon petit chrétien, je me dis, je vais quand même passer du temps avec Dieu dans l'Écriture et dans la prière, etc. Ça va souvent me faire beaucoup de bien. Alors je me place dans mon bureau et il y a une vitre qui donne sur la rue dans le bureau et il tombe, nous sommes en Belgique, il tombe des cordes, comme aujourd'hui, mais il tombe des cordes. Et je me dis, alors je viens d'ouvrir la parole de Dieu et je m'apprête à prier, et je me dis, intérieurement, foutu pluie, pays de cons. C'est une disposition d'esprit et de cœur extraordinairement efficace quand vous voulez entendre Dieu vous dire quoi que ce soit. Hein. Enfin, soit. Mais il y a une bonne nouvelle, hein, j'arrive. Hein. Comme d'habitude, à ce qui me concerne, je commence toujours par la lecture d'un psaume. Toujours. Et je tombe sur ceci, ça ne s'invente pas. Hein. Je suis la lecture monastique des psaumes, hein, dont je prends telle semaine, voilà, hein, etc. Office du matin, je prends le psaume, et c'est le psaume 147. Et je le lis, et au verset 8, je tombe là-dessus. « Il, donc Dieu, couvre le ciel de nuages, Il prépare la pluie pour la terre. Alors, je me dis, ah, on a dit ça, ouais, ok, ben, qu'est-ce qu'on. C'est pas un, on lit ça, on dit, c'est pas un verset qu'on va mémoriser spécialement, on s'en fout, quoi. Oui, mais dans mon état d'esprit à moi, ça m'a foutu une droite dans ma tête. Hein. C'est là donc ça me frappe. C'est merveilleux la pluie. D'essayer, on répète, c'est merveilleux la pluie. Parce que sans la pluie, il n'y a rien qui pousse. Il n'y a rien à manger. Il n'y a rien de beau parce qu'il n'y a pas d'herbe. Donc pas de ruminants. Enfin, les vaches, vous allez me dire, c'est selon. Hein. Donc pas de viande pour les carnivores. Pas de terrain de foot. Pas de finale de la Coupe d'Angleterre. Donc pas de paysage verdoyant. Pas de campagne anglaise. Pas d'Irlande. Est-ce qu'on peut imaginer le monde sans l'Irlande? Je me suis donc surpris, en l'espace de 3 minutes, à remercier Dieu pour la pluie et à lui demander pardon d'avoir râlé contre l'une de ses nombreuses bénédictions quotidiennes. Rappelez-vous, hein, il pleut sur les bons comme sur les méchants. Hein. La terre a besoin de pluie, nous avons besoin de pluie. Et à propos, en passant, et c'est le plus important, il a changé mon état d'esprit pour toute la journée. Et ça prouve aussi que ça ne dépendait pas de mon état à moi. Tout ce que j'ai fait, c'est peut-être par habitude, ce jour-là, ouvrir la parole de Dieu. C'est tout ce que j'ai fait, ce qu'il me demande de faire. Si je dis ça, si je précise ça, c'est parce que on pourrait se dire, comme je suis fermé, parfois on se sent enfermé, je ne suis pas de bonne humeur, je ne vais pas prendre ce temps, parce qu'il ne va rien se passer. Il ne faut jamais faire ça. Dieu sait que souvent nous sommes encombrés intérieurement. S'il devait attendre que nous sentions, nous, par rapport à ce que nous connaissons de nous-mêmes, ouvert suffisamment pour aller vers lui, et à mon avis, il passerait son temps à nous attendre. Deuxième point. Il faut apprendre à lire la Bible avec un esprit d'ouverture. Nous devons apprendre à la lire avec un empressement, une disposition de cœur toujours plus grande à tout abandonner à Dieu, mais en comprenant un principe fondamental que j'ai évoqué dans l'introduction tout à l'heure. Et ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. Lire pour être transformé est très différent que de lire pour être informé. Ah, il y a beaucoup de gens qui ont de solides informations, hein, bibliquement parlant. Mais en termes de transformation, la différence entre les deux, c'est que l'information ne nécessite, c'est déjà pas mal, vous me direz, ne nécessite que du temps, de la concentration, une habitude ou une forme d'intérêt pour l'écriture. Ça demande quand même des trucs, hein, c'est clair. La transformation, elle, nécessite que nous voulions obéir à ce que l'écriture dit. Donc quand on lit, quand on te frappe sur la joue gauche, c'est un grand classique, hein, tu tends la droite, il ne faut pas se dire... Ça, c'est pas possible, quoi. C'est même pas en rêve. Il faut se dire, ok, j'ai entendu, Seigneur, comment je fais ça? Apprends-moi, montre-moi. Voilà. En fait, les gens qui lisent mal la Bible, et je mets l'adjectif mal entre guillemets, donc avec une mauvaise disposition de cœur, je vais peut-être aller fort en disant ça, mais je le crois profondément, ben, ces personnes peuvent être endommagées par la lecture de la Bible. Ça peut faire du dégât, la lecture de la Bible. D'abord sur vous-même, et puis après sur les autres. Voici ce que dit Philippe Jacques Spener, un théologien totalement inconnu du bataillon, hein, luthérien, du 17e, quant à la façon dont il ne faut surtout pas lire la Bible. Donc il y a une mauvaise façon de lire. Voilà ce qu'il dit, je vous le lis. Hein. Comment des lecteurs peuvent-ils se faire mal à eux-mêmes s'ils lisent la Bible sans prier sincèrement et avec le désir d'obéir à Dieu ? Mais seulement pour accroître leur connaissance, pour faire l'intéressant et pour assouvir leur curiosité. S'ils n'observent pas ce qui est utile pour leur édification, donc s'ils n'écoutent pas et ne tentent pas de mettre en pratique ce qu'ils lisent, mais seulement ce qu'ils peuvent utiliser pour leur gloire personnelle et contre les autres. S'ils méprisent ce que dit simplement l'Écriture, ce qui est compréhensible, on se cache souvent sur le fait qu'il y a quand même des textes compliqués. Hein. Ok, mais encore une fois, le texte que j'ai cité... où tu aimeras ton ennemi, c'est très facile à, c'est pas facile à vivre, ça, on est d'accord, hein, y a un chemin, mais c'est facile à comprendre. Hein. Non, ben si. Alors, bien sûr, il y a des textes difficiles, mais ce n'est pas de ce dont on parle. Il y a beaucoup, la grande majorité des textes, et ce n'est pas pour rien, c'est dans la sagesse de Dieu que Dieu a permis ça, la grande majorité des textes nous permettant la transformation personnelle à travers l'Écriture, ces textes sont totalement compréhensibles. Autrement, mes amis, expliquez-moi comment il y a des gosses de 5-6 ans qui se convertissent. Hein. L'Évangile, un tout petit enfant est capable de le comprendre et de recevoir la parole. Donc, il continue notre ami Spener, là. Mais encore, s'ils prennent des passages difficiles, justement, au sujet desquels il y a beaucoup de querelles, afin d'y découvrir quelque chose d'inhabituel pour pouvoir se mettre en valeur, s'ils utilisent ce qu'ils ont appris avec orgueil et pour leur propre gloire, s'ils pensent qu'ils sont les seuls à être sages, à comprendre quelque chose, en fait, refusant obstinément de meilleurs enseignements, donc de changer, parce que parfois on peut changer, hein, qu'ils aiment se disputer et ne reçoivent rien des autres avec modestie. Ça fait quand même 30 ans maintenant que je connais Dieu, 30 ans que je tente de fréquenter sa parole. Il y a beaucoup de choses que je croyais il y a 20 ans, 25 ans, voire même au début de ma conversion, et que je ne crois plus aujourd'hui. Pas que le texte biblique a la bougeotte, hein, mais c'est moi qui l'ai. Et que quand on rentre en contact avec le texte biblique, si moi je le lis, le texte biblique, c'est Yves qui lit, hein, avec son passé, son intériorité, ses problèmes, ses péchés, ses défauts, ses qualités, oui, nombreuses. Mais ce n'est pas Nicolas, ce n'est pas Monique, ce n'est pas José. Et ce sera différent pour eux, parce qu'ils sont différents, et parce que Dieu est un père qui aime ses enfants de la même manière, quel qu'il soit, mais qui sait, lui, qu'ils sont tous différents. Ça ne veut pas dire que parce que vous êtes ce que vous êtes, vous pouvez interpréter le texte biblique comme vous voulez. C'est que vous allez forcément passer par des passages. Moi, j'en suis passé par certains moments. Quand j'en discutais avec certains autres, ils ne sont jamais passés par là, dans leur appréhension, leur apprentissage de l'Écriture. Et moi, je sais que j'ai beaucoup appris en étant très déstabilisé, en voyant des tensions dans le texte biblique, des choses qui me paraissaient irréconciliables entre elles. J'ai encore partagé ça il n'y a pas tellement longtemps, que ma vie de prière a été mise par terre pendant longtemps dans ce qui me concerne, parce que je me suis simplement dit, Bible en main, si Dieu sait tout, pourquoi est-ce que je dois encore prier? Si c'est mieux que moi ce qui est bon pour moi et pour les autres, pourquoi est-ce que je dois encore prier? Donc t'arrêtes de prier jusqu'au jour où j'ai recompris, je ne te demande pas de comprendre tout ce que je dis, je te demande de faire ce que je dis. Et tu as besoin de prier, je veux que tu pries. Voilà. Et ma vie de prière s'est réallumée. Donc, on pourrait résumer, même si la pensée des théologiens est très difficile en règle générale à résumer, on pourrait quand même résumer ce que dit notre ami théologien par cette phrase. Être rempli de connaissances relatives à la Bible, mais ne pas être lavé par elle, est pire que de ne pas la connaître du tout. Dans certains milieux, la Bible est devenue un instrument de destruction massive. Au début de mon ministère, il m'arrivait très souvent, quand j'ai commencé à prêcher, il arrivait très souvent qu'un frère connu pour sa grande connaissance biblique, parce qu'à l'époque les vieux frères avaient une grande connaissance biblique, que ce vieux frère vienne systématiquement me trouver après la prédication. C'était systématique, il venait me voir. Il me récitait alors toute une litanie de reproches concernant mon enseignement, et ne manquait jamais de me proposer de m'éclairer de ses lumières à lui. De me dire comment j'aurais dû appréhender le texte, ce que le texte voulait dire vraiment, sur quoi j'aurais dû appuyer, etc., etc. Et il me répétait en plus qu'il avait beaucoup prié le Seigneur au sujet de mon enseignement et que le Seigneur était d'accord avec lui. Que mon enseignement, c'était pas. Donc s'il avait raison, vous êtes mal. En passant. Hein. Mais comme j'ai dit que j'ai changé depuis lors, il y a peut-être un peu encore de l'espoir. Alors, je vous passe, parce que ça prenait du temps, je vous passe les reproches faits au sujet des jeunes de l'Église, qui n'étaient pas assez consacrés, pas assez spirituels, pas assez malins, etc., et des enfants mal élevés qui l'empêchaient de profiter de son culte, parce qu'il bougeait dans tous les sens. À la fin, il finissait toujours par me dire, « Je n'aime pas grand-chose de ce que tu fais, mais je t'aime dans le Seigneur. » Ça me faisait le même effet que la première fois que j'ai entendu quelqu'un dire, « Nous devons être habités par la joie grave du Seigneur. » Ouais, vraiment, hein. Joie, ok, grave, ça va, je vois, mais joie grave, ça, je ne. Et là, mais je t'aime, t'es en dessous de tout, je sais pas t'encadrer, mais je t'aime dans le Seigneur. Cet homme, je ne lui jette pas la pierre, non, je ne lui jette plus la pierre plutôt, savait tout ce que disait la Bible concernant l'amour, mais vraiment, hein, il connaissait tous les versets par cœur. La seule chose qu'il avait oubliée, c'est de le mettre en pratique. Il lisait la Bible pour tout ce que vous voulez, pour n'importe quelle raison, sans doute, mais certainement pas pour la raison fondamentale d'être transformé par son contact avec l'Écriture. J'ai, à titre personnel, parce que je suis quelqu'un de sérieux, j'ai donc médité sur cette expression « aimer quelqu'un dans le Seigneur » parce que moi, je voulais savoir le sens de ce truc. Il m'est apparu que nous l'utilisions souvent très mal. Nous n'aimons pas vraiment quelqu'un et nous ne lui souhaitons pas le meilleur, parce que ça, c'est la conséquence. Vous n'aimez pas vraiment quelqu'un, vous ne lui souhaitez rien de bon. Peut-être rien de mal non plus, même. Mais nous sommes chrétiens. Et comme les chrétiens sont supposés aimer tout le monde, cela doit vouloir dire que nous les aimons dans le Seigneur. Donc c'est une sorte d'amour sans amour, sans implication. En fait, cette phrase, c'est un côté comique, même si c'est dramatique, encore utilisée dans certaines églises, ça commence à tomber en désuétude aussi, ça, on est arrivé à définir une manière d'exprimer notre manque d'amour. Donc si quelqu'un vous dit « je t'aime dans le Seigneur », fouillez, c'est qu'il ne vous aime pas en fait. Non, mais vraiment. Mais j'ai dû réfléchir pour arriver à ça. Hein. Ça explique pourquoi je cours très vite aujourd'hui. Alors, je vais vous donner la... Ben, vous en doutez. Aimer dans le Seigneur, c'est très... En fait, c'est encore une fois très simple. Hein. Ça signifie simplement aimer quelqu'un comme le Seigneur l'aimerait s'il était à votre place. Et vous êtes à sa place. Et ça on a toujours... Je pense que l'Église aujourd'hui a du mal avec ça. Les chrétiens ont du mal avec ça. Nous continuons l'incarnation de Jésus. Nous avons pris le relais, il nous a filé le bâton. Alors quand nous avons quelqu'un que nous n'aimons pas vraiment, mais qui a besoin d'être aimé, parce que c'est le besoin fondamental de tout individu sur cette planète, si vous êtes en proximité avec cette personne, c'est à vous de l'aimer comme Jésus l'aimerait s'il était là. C'est ça, aimer quelqu'un dans le Seigneur. Donc m'aimer dans le Seigneur, c'était justement ce que ce frère ne faisait pas, en ce qui me concerne en tout cas. Mais c'est un ancien agriculteur, apparemment, par contre, il adorait ses vaches. Heureux ce bête. Hein. Je pense même qu'il leur lisait l'Évangile et elle fouillait aussi. Mais pour être tout à fait sincère avec vous jusqu'au bout, en repensant à cette personne, l'histoire finit bien, je vous rassure, hein, mais il ne m'a pas fallu réfléchir beaucoup à l'époque pour comprendre que je ne souhaitais pas grand-chose de bon pour lui non plus. C'est étrange, hein. Il m'a rien de prier avant d'aller au culte. J'ai dit, arrange-toi pour qu'il soit malade, qu'une de ses vaches vêle, qu'il ait un problème, que sa fille ait un accident de scooter. Enfin, fais quelque chose. Mais parce que bon, vous prêchez et vous avez un type là. Et si au moins il avait pris des notes, il n'avait même pas besoin de prendre de notes. Quand vous savez que quelqu'un va vous écouter pour relever uniquement ce avec quoi il n'est pas d'accord, ça ne vous positionne pas très bien. Donc, très vite, je me suis rendu compte que moi non plus, je ne l'aimais pas dans le Seigneur. Mais il y a pire. Imaginez s'il avait été un de mes fans. Hein? Un de mes fans, tout en ayant les mêmes dispositions de cœur envers les autres, mais pas moi. Mais il m'a dit, c'est après, il avait été en dessous de tout au niveau relationnel, en termes d'amour, mais il m'avait dit chaque fois, ah, c'est fabuleux ce que tu enseignes. Eh bien, je pense que si d'autres étaient venus se plaindre chez moi de lui, j'aurais dit, ouais, mais non, vous ne vous rendez pas compte, ce gars, il voit quand même souvent clair. Hein. C'est que tu as un problème dans ta vie. Vous comprenez? Mais c'est terrible. Hein. Oh, mais c'est horrible, non? Je suis horrible, je confesse, parfois. Alors, je vous le dis, ça s'est bien terminé. Parce qu'à un moment, j'ai partagé ce souci que j'avais de plus en plus avec lui, avec les anciens de l'Église. Et l'un d'entre eux m'a dit, il y a quelque chose que tu dois accepter, c'est que tu ne seras jamais le pasteur de tout le monde. Eh bien, ça, c'est un truc que je n'ai jamais accepté. Parce que si Dieu vous demande de remplir un service pour lui dans l'Église, il ne vous dit pas, bon, tu le rempliras pour lui, mais pas pour lui. Hein, parce que ça va être trop compliqué pour toi, tu ne vas pas pouvoir te remettre. Non, non, non. Je dis, ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est impossible. J'ai donc pris mon courage à deux mains, et après, un dimanche après que j'ai prêché, il m'est nouveau rentré dedans, et je lui ai dit, j'aimerais bien qu'on... Tu permets que j'aille une fois chez toi te visiter? Je me disais qu'il allait m'envoyer sur les roses. Pas du tout. Il me dit, avec plaisir. Et j'ai été, une première fois. Et on a parlé de tout sauf de la Bible et de ce qu'il pensait de mon enseignement. Il m'a parlé de sa famille à lui, de ses souffrances. Il a commencé à déballer. J'y étais souvent. Et on est vraiment devenus, je ne vais pas dire des grands amis, mais parce qu'il y avait une solide différence d'âge en plus, mais oui, Et après ça, il ne m'a plus jamais rien dit après le culte. J'avais beaucoup prié pour ça. Et j'ai commencé à comprendre pourquoi il marchait comme ça, il fonctionnait comme ça. Mais c'est fou, hein, ça, quand même. Ça demande un peu de courage. Hein. Je suis pas différent des autres, mes amis. Hein. Je préfère qu'on m'aime, hein, et qu'on me dise que je suis merveilleux. Hein. Bon. C'est là que vous dites que je suis merveilleux, hein, logiquement. Vous n'avez rien compris. Il n'empêche, hein, comme le disait un illustre inconnu, la connaissance pour la connaissance, c'est la prétention d'avoir compris Dieu sans jamais avoir cherché à l'aimer. Mon cœur, déjà le mien d'abord, nos cœurs ont besoin d'être lavés, car quand un cœur est lavé, quand un homme commence à être rempli des pensées de Dieu, il commence vraiment à devenir un cadeau pour le monde qui l'entoure, et c'est ça sa mission, devenir un cadeau pour ceux qui nous entourent. J'ai dit, j'ai évité dans ma préparation d'être trop long, donc je vais terminer par une histoire vraie, hein, encore une fois, mais je trouve absolument merveilleuse. Les plus belles, c'est les histoires vraies. C'est des choses qui vont vraiment exister dans la vie des gens. On raconte l'histoire d'une vieille femme de 99 ans qui habitait à 2 heures de route d'Addis Abeba en Éthiopie. Alors 2 heures de route, ce n'est pas de l'autoroute, hein, donc vous imaginez, elle était vraiment isolée, c'est ça que ça veut dire. Cette femme était devenue chrétienne dans la cinquantaine. Elle était également illettrée et aveugle. Elle vivait dans une hutte minuscule et tenait toujours posée sur la table 2 Bibles, l'une en anglais, l'autre en éthiopien, en dialecte local. Chaque fois que quelqu'un lui rendait visite, elle demandait à ce quelqu'un de lui lire la Bible. Avec le temps, ça a pris du temps, mais avec le temps, ses passages préférés devinrent si familiers qu'elle pouvait les réciter par cœur. Et si quelqu'un ne savait pas les lire, parce que le quelqu'un en question avait le même problème qu'elle, était illettré, c'est elle qui récitait de mémoire et en faisait le don à son visiteur. Alors il paraît que les gens venaient d'extrêmement loin et dans des conditions souvent difficiles de voyage pour lui rendre visite. Et quand on lit cette histoire, c'est vrai que très vite la question vient, mais pourquoi tous ces gens venaient-ils voir une vieille femme noire isolée dans sa hutte, illettrée et aveugle? Quel intérêt ça, mes amis, franchement. Eh bien, parce que d'une manière ou d'une autre, en sa présence, par exemple, par sa voix, les mots « l'Éternel est mon berger » cessaient d'être seulement des mots. Ses pensées avaient si profondément et si souvent lavé son cœur qu'il était tout simplement impossible qu'une quelconque pensée d'anxiété puisse encore surgir en elle. Son cœur pur ne désirait plus qu'une seule chose. Rappelez-vous, un cœur pur, c'est quelqu'un qui ne désire qu'une seule chose. Les gens venaient la voir parce qu'il était impossible de l'entendre dire ces mots sans commencer d'espérer profondément qu'un jour peut-être, il devienne réel pour eux aussi. Je vais quand même terminer par une question assez terrible. Je vous la laisse pendant la semaine, je suis gentil. Une question liée justement à une réalité. Comment le fait de lire la Bible peut-il avoir des effets aussi différents sur cette femme éthiopienne et sur cet homme dont je vous ai parlé tout à l'heure? Eh bien parce que je pense que lorsqu'on parle de méditer la Bible, l'important n'est pas combien. L'important c'est comment. Il est tout à fait possible de lire la Bible sans être lavé par la parole. Et d'ailleurs, la Bible, et en particulier Jésus, en parle. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine.